Notre bloc. Il passait en ronde 5, car il fallait marcher en ronde 5. Il y avait des vieillards, des jeunes qui soutenaient les vieux, et des femmes qui portaient les enfants sur les bras. Il y avait des nourrissons parmi ceux-ci. Et j'ai vu d'abord des coups de bâton qui tombaient. Ils savaient qu'ils vont en gaz. Les SS, qui les mènent au gaz. Et ce n'étaient même pas les SS qui les accompagnaient, c'était les SS de mon camp qui venaient voir les spectacles. Les coups de bâton tombaient. On arrachait les enfants, on les jetait dans l'air pour qu'ils tombent par terre. Et on criait en rang des cinq, marchait au pas, etc., etc. Je n'ai pas vu les SS dans les blocs de travail car je n'avais pas le droit d'aller dans les blocs de travail. Je sais qu'il y avait des types qui étaient ignobles, absolument. Je me rappelle un jour, il y a un SS qui était un perverti, qui venait pisser. Il ne pouvait pas faire autrement que sur les filles qui étaient là. Alors la nuit, il venait dans les baraques pour se soulager sur les filles. Jusqu'à présent, je me demande si c'est moi qui étais là, si c'est moi qui ai supporté ça, si c'est moi qui a travaillé. Je me dis, c'est pas possible, c'est mon double, parce que moi je n'aurais sûrement pas pu le supporter. Ce n'était pas possible. Et encore jusqu'à présent, je ne sais pas comment c'était possible.
La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Tous et la parole.
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui John Shade, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. L'empereur Auguste a laissé, pour reprendre l'expression du professeur John Shade, son autobiographie, le mot n'ayant bien sûr rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par là, rien de plus évident. Voilà un homme qui sut créer sa propre légende parce qu'il avait su créer sa vie. Auguste, en effet, est un des rares hommes politiques qui ait totalement réussi. Il sut dès sa jeunesse saisir toutes ses chances alors que même rien n'était joué pour lui. Self-made man, dirait-on aujourd'hui. Il est le véritable fondateur de l'Empire romain tel qu'on l'érige en modèle encore actuellement. Bref, il est par excellence l'homme de pouvoir et bien plus encore l'inventeur de formes nouvelles de pouvoir comme, par exemple, ainsi que nous le voyons ici même dans ce cours, l'inventeur d'une forme nouvelle de discours sur le pouvoir. Ce qui manque partout et presque de tout temps aux hommes de pouvoir, c'est l'intelligence sous toutes ses formes. Cette intelligence ouverte qui calcule sur le long terme en liant son œuvre avec sa vie et non pas, comme c'est trop souvent le cas de nos jours, sur de petites carrières personnelles. Cette intelligence qui permet de réussir dans tous les domaines stratégiques, artistiques, politiques et idéologiques. Les res gestae, titre que l'empereur romain a donné à cet écrit et qui signifie « les hauts faits » et que le professeur Shade étudie avec nous, est le texte qu'Auguste a laissé après sa mort. Ce texte a longtemps fait l'objet de fantasmes et de manipulations. Restitué dans sa force propre et pris au sérieux par John Shade, il n'en est que plus extraordinaire. Ainsi, nous voilà placés devant la grandeur de Rome et les raisons pour lesquelles et Auguste et son empire ont servi de modèle dans sa magnificence et dans sa cruauté.
Le fait de souligner qu'Auguste a obtenu ou fait quelque chose le premier de tous, ouvre un tout autre thème très important dans les Res Gestae et pour le nouveau régime, comme nous le verrons. C'est cela qui est un peu en cause ici. Maintenant viennent des choses. Déjà, son initiative à 19 ans était quelque chose d'assez unique, mais il n'était pas le seul. Ça s'était déjà vu. Mais maintenant viennent régulièrement des affirmations, le premier de tous, ou plus que quiconque, etc. J'ai fait, j'ai reçu, etc. Mais en même temps, pour la première fois, apparaît un thème supplémentaire, celui de la modestie. Lisons le début du chapitre 4. J'ai deux fois triomphé par ovation, et j'ai trois fois célébré un triomphe en char. J'ai été appelé 21 fois impérator. Le Sénat m'ayant décerné dans la suite un plus grand nombre de triomphes, encore, je les ai déclinés. J'ai déposé les lauriers de mes faisceaux au Capitole, après avoir acquitté les vœux que j'avais formulés dans chaque guerre. Auguste a donc célébré de façon tout à fait traditionnelle ses triomphes, en acquittant les vœux, les vœux qu'il avait formulés au moment du départ en guerre, à son retour. Et surtout, il a refusé tous les triomphes que le Sénat lui avait accordés par la suite. Une fois de plus, il se retranche derrière l'autorité du Sénat, qui lui octroie tous ses triomphes, et affirme qu'il ne désirait pas dépasser ce qui était traditionnel. Il ne rappelle évidemment pas qu'il a empêché rapidement les autres généraux victorieux de célébrer des triomphes, en réservant cet honneur aux membres de sa famille. La suite du texte continue d'égrener les pouvoirs attribués à Auguste, que celui-ci a accepté ou non. Lors de la grande pénurie alimentaire de 22 avant Jésus-Christ, il refusa la dictature qui lui fut offerte par le Sénat et le peuple à la fois, mais il exerça une curatio annonae, une charge de pourvoyeur du ravitaillement. Voici comment il présente l'événement. La dictature me fut proposée par le peuple et par le Sénat, en mon absence et en ma présence, sous le consulat de Marcus Marcellus et de Lucius Aruntius, 22. Je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas refusé la charge de l'annone lors de la pénurie aiguë de blé. Je l'ai géré de telle manière qu'en peu de jours, par mes subventions et par ma sollicitude, je libère la ville de la peur et du danger perceptible. Je n'acceptais pas non plus à cette époque le consulat annuel et perpétuel qu'on m'offrait. On peut comparer ce récit pour une fois à celui que Dion Cassius, dans son histoire romaine, fait de l'événement dans le livre 54, chapitre 1er, 3 et suivant. Je sais pas si je... Non, je l'ai pas mis, je crois. Peu importe, hein, je vous lis le passage. Après une série de prodiges, une épidémie frappant toute l'Italie et une famine se déclare. Et Dion Cassius écrit « Les Romains croyaient que ces malheurs s'abattaient sur eux parce qu'Auguste n'était désormais plus consul. » En 23, il avait refusé d'être désormais élu comme consul. Et donc, ils voulaient l'élire dictateur. Ils enfermèrent les sénateurs dans leur curie et les forcèrent à voter cette mesure, eux aussi, en les menaçant de brûler le bâtiment sans les laisser sortir. Ensuite, et bien sûr le Sénat vote, c'est ce qu'il appelle le consensus, n'est-ce pas, entre le Sénat et le peuple. Ensuite, ils prirent les 24 faisceaux, les victeurs, approchèrent Auguste et le suppliaient d'accepter la nomination comme dictateur, et de devenir responsable de l'approvisionnement en blé, comme Pompée l'avait fait jadis. Donc vous voyez, c'est une cérémonie haute en couleur, où les sénateurs se font enfermer comme les cardinaux en conclave, et ne peuvent pas sortir avant d'avoir voté un senatus consul qui lui propose la dictature. Et puis, le peuple saisit 24 faisceaux de licteurs, et seul un dictateur a 24 licteurs, et les présente à Auguste pour le forcer, en quelque sorte, lui aussi, à l'accepter. Mais son prestige est tel qu'il arrive à... Il dit, je n'accepte pas, mais j'accepte la fonction, donc il prend cette curatelle de la nonne et revoit toute la distribution de blé, et en peu de temps résout le problème. Une année plus tôt, donc Auguste avait refusé le consulat perpétuel, c'est-à-dire un consulat revêtu automatiquement chaque année. Dans ce passage des Res Gestae, il rappelle donc qu'il avait rejeté toute magistrature traditionnelle perpétuelle, même si elle lui était proposée par le peuple et le Sénat. La dictature était honnie depuis l'expérience de César et la loi Antonia qui avait condamné désormais l'exercice de cette charge. Le consulat perpétuel ne pouvait pas non plus convenir car il contredisait la restauration de la République dont Auguste se vantait tant. D'autre part, l'évocation de la menace de la famine, qui se trouve à l'arrière-plan de ces phrases, permet à Auguste de se mettre une fois de plus en évidence et de se référer au passé. Comme Pompée en 57 avant Jésus-Christ, ce que le peuple dit aussi, n'est-ce pas, dans ses revendications, comme Pompée en 57 avant Jésus-Christ, il accepte donc la curatio annonae, la charge du ravitaillement, et contrairement à Minucius, bien plus tôt, en 314 avant Jésus-Christ, qui lui aussi avait reçu cette charge, il n'échoua pas dans sa tâche, mais il l'accomplit en un temps record. Le chapitre 6 explicite encore sa volonté de respecter la légalité. Je lis. Sous le consulat de Marcus Vinicius et de Quintus Lecrecius, et ensuite celui de Publius Lentulus et de Gnaeus Lentulus, et pour la troisième fois sous le consulat de Paulus Fabius Maximus et de Quintus Tuberon, le Sénat et le peuple romain furent unanimes pour que je fusse élu seul curateur des lois et des mœurs avec un pouvoir suprême. Je n'acceptais aucune magistrature conférée contrairement à la coutume ancestrale. De nouveau, pression populaire, nous sommes en 19, n'est-ce pas, je crois, parce qu'Auguste avait été absent et de nouveaux troubles avaient éclaté à Rome, des querelles, vraiment des bagarres de rue, et les gens étaient assez inquiets, ils pensaient qu'à chaque fois qu'Auguste tournait le dos, ça allait recommencer, la guerre civile n'était pas si loin encore. Donc Auguste rappelle que lorsqu'en 19, 18 et une troisième fois en 11, le peuple et le Sénat, en parfait accord, ont désiré l'élire seul à une fonction qui était celle de curateur des lois et des mœurs, avec un pouvoir suprême, c'est-à-dire supérieur à celui des, ou égal à celui des consuls, de nouveau une magistrature d'exception, revêtue seule en plus, il rappelle qu'il n'a pris pas cette magistrature-là, et ni aucune magistrature offerte, qui ne correspondait pas à la tradition des ancêtres, c'est-à-dire qui fut nouvelle et qui l'aurait acceptée tout seul. Encore une fois, il s'agit de souligner qu'il n'a pas accepté une magistrature nouvelle et de type monarchique, comme celle qu'à trois reprises le Sénat et le peuple voulaient lui conférer pour réformer les mœurs par voie législative, c'est-à-dire mettre par loi législative un terme à ces désordres. En fait, cette summa potestas aurait représenté le cumul des pouvoirs d'un censeur et d'un consul, de surcroît exercé par une seule personne. C'est cette magistrature de type exceptionnel et nouveau qu'Auguste a refusé strictement, sans nier qu'il a effectivement opéré sa réforme morale. La phrase suivante le dit. « Ce que le Sénat voulut alors me faire effectuer, je le réalisais par la puissance tribunicienne. Ce qui est en cause, c'est la magistrature exceptionnelle, pas les réformes en question. Il les fait toutes, mais pas de façon exceptionnelle. Et même pour la puissance tribunicienne, qui était surtout un pouvoir d'initiative, il précise tout de suite. Et pour celle-ci, j'ai exigé de ma propre initiative du Sénat et obtenu un collègue. À cela s'ajoute le chapitre suivant, dans lequel il donne trois indications supplémentaires. D'abord, il écrit « J'ai été des triumvirs, membre du triumvirat, pour restaurer la République pendant 10 années continues. J'ai été prince du Sénat jusqu'au jour où j'écris ceci pendant 40 années. » Donc, il rappelle son appartenance au collège des triumvirs, et aussi ce titre de prince du Sénat qu'il a eu très tôt et qu'il a eu pendant 40 ans. Prince du Sénat, c'est le premier des sénateurs qui, en quelque sorte, est celui à qui on s'adresse le premier quand il s'agit de demander l'avis des sénateurs. Et c'est pour cela qu'on l'appelait le princeps, princeps senatus, princeps, le prince. Enfin, Auguste énumère les nombreuses prêtrises qu'il a revêtues. Et vous les voyez là, pontife, augure, queen des Saint-Vire, etc. Il ne s'agit pas de considérer ce passage et les précédents comme une description historique, je le répète, et de déplorer tel ou tel manque. Ainsi, par exemple, pourrions-nous nous étonner qu'il n'évoque pas à propos des prêtrises la restauration de toute une série de vieux sacerdoces tombés en désuétude ou du moins complètement disparus de la vie publique. Or, l'intention du rédacteur ne va pas dans ce sens. Dans ce passage, il entend uniquement énumérer les fonctions publiques qu'Auguste a revêtues, en soulignant à chaque fois qu'il l'a fait conformément à la tradition. Les lecteurs auxquels les res gestae étaient destinés en premier lieu connaissaient de toute façon tous les détails, et notamment l'histoire particulière de toutes ses responsabilités et fonctions. Auguste pouvait se permettre de faire des choix. Il ne convient pas non plus de s'étonner comme Edwin Ramage, que j'ai déjà cité dans son livre de 1987 sur les res gestae, que les prêtrises soient incinérées dans l'énumération des fonctions civiles, qui occupent aussi le chapitre 8. La place des sacerdoces n'est nullement surprenante, car les fonctions énumérées sont des sacerdoces publiques, des fonctions d'État, qui à Rome étaient des fonctions publiques comme les magistratures. Ainsi que vous le savez certainement, il n'existait à Rome ni séparation de la religion et de l'État, ni clergé indépendant et obéissant à une hiérarchie supra ou extrastatale. Auguste fait uniquement le décompte de tous les sacerdoces pour faire voir qu'il a revêtu des fonctions religieuses traditionnelles en grand nombre, plus que jamais un dignitaire romain n'en avait revêtu, et surtout aucune fonction extravagante, comme par exemple dans le domaine religieux, l'aurait été celle de dignitaire d'une religion étrangère. C'est cela, au fond, qu'il dit. Rien que du national. Le triumvirat est évoqué dans ce contexte pour souligner qu'il a certes revêtu cette magistrature exceptionnelle pendant 10 ans, mais qu'il l'a abandonnée dès que l'objectif lui parut être atteint. D'autre part, il fait état d'une autre fonction honorifique ininterrompue, celle de princeps senatus, qui est ancienne et certainement pas monarchique. Celle-là, il l'a eue perpétuellement, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une fonction de magistrat, elle ne donne qu'un pouvoir moral, rien d'autre. Nous voyons parfaitement que l'objectif de ce passage consiste à affirmer très fortement deux choses en rappelant l'ascension d'Auguste. D'une part, Auguste a parcouru une carrière politique plus brillante que tout autre connu jusqu'alors. Mais cette accumulation de magistrature ne doit pas faire oublier qu'il a toujours refusé, immédiatement ou dès que possible, les magistratures nouvelles et monarchiques. Il a agi en fonction des pouvoirs qu'il possédait, et s'ils étaient particuliers, comme la puissance tribunicienne et neuve, ils étaient soumis au renouvellement et exercés à sa demande avec un collègue. Ces fonctions couvrent tout le champ des compétences traditionnelles de l'État, du commandement civil et militaire, aux initiatives pour le ravitaillement ou la réforme morale et aux responsabilités religieuses. Deuxièmement, le prince ne se soustrait pas à ses obligations. Il a beaucoup reçu du peuple et du Sénat en récompense à son œuvre restauratrice de l'État. Mais il n'a pas démissionné. Sa mission n'est pas terminée. Rejetant tout pouvoir inacceptable, il exerce, s'il en est besoin, la fonction requise, efficacement et brièvement. En 22, par exemple, les Romains ont eu peur et le Vindex Libertatis, le restaurateur de la liberté, a une fois de plus rempli son rôle en libérant ses citoyens de la peur d'une famine. Cette partie des res gestae énonce donc, d'une certaine manière, la forme institutionnelle du principat, mais souligne également le droit d'initiative qui reste celui du prince, prêt à sauver la République quand le besoin s'en fait sentir c'est-à-dire non pas quand il en a envie, mais quand le peuple et le Sénat le lui demandent. C'est ce qu'il dit. Il n'y a aucun doute que tout cela est une construction et que dans les détails, la réalité était moins belle que dans la prose claire et efficace des Res Gestae. Mais l'essentiel n'était pas là. Auguste présente la nature du nouveau régime qu'il a créé en insistant lourdement sur ce qui lui paraît essentiel, en guise d'avertissement aussi pour son successeur. Qu'il arrange le portrait du principat, c'est une évidence. Mais peut-on dire qu'il ment carrément? Je ne pense pas qu'il pouvait se permettre de mentir en 14, après Jésus-Christ, après sa mort en quelque sorte, et devant le Sénat et l'ensemble de l'élite romaine, surtout après un principat de plus de 40 ans. On peut examiner quelques autres détails pour voir dans quelle mesure il dit effectivement la vérité quand il parle clairement. Commençons par un problème qui a fait couler beaucoup d'encre, la durée du triumvirat. Auguste écrit que celui-ci n'a duré que 10 ans, sans interruption. Triumvirum rei publicae constituendo ae fui, je fus des triumvirs, j'appartins au triumvir de la République, etc., pour la restitution de la République, pendant 10 années continues, sans interruption. Il y a 2 légères inexactitudes dans cette affirmation. D'abord, Auguste ne tient pas compte de la période du 27 novembre 43 au 1er décembre 42, pendant laquelle le triumvirat créé par la loi Titia existait déjà. Donc, il omet une partie du temps. Il a en fait été au-delà de 10 ans. D'autre part, il passe sur la période qui va du 1er janvier 37 à septembre ou octobre 37, quand le premier triumvirat avait pris fin et que la nouvelle loi qui instituait un deuxième quinquennat, quinquennium, pour les triumvirs, n'avait pas encore été voté. Donc il y a quelques mois, là, 9 mois ou 10 mois, qui sont un vide, un moment de vide de pouvoir, en quelque sorte, dans cette magistrature. Mais il ne s'agit pas d'un mensonge ou d'un arrangement des faits. Nous verrons plus loin que les triumvirs agissaient pendant les premiers mois de 37 en vertu de pouvoirs légaux, même si formellement, leur charge de triumvir avait cessé. Et surtout, Auguste tient compte dans son résumé du fait que la loi qu'il fit voter en septembre ou octobre 37 avait de toute façon rétrospectivement comblé le vide existant à partir du le vide juridique existant à partir du 1er janvier. Les fastes consulaires et triomphaux du Capitole ont procédé de même, puisqu'il donne en tête de l'année 37 les triumvirs avant les noms des consuls de l'année, comme s'ils avaient été en fonction depuis le 1er janvier. Vous avez Marcus Aemilius Lepidus Iterum, Marcus Antonius, etc. Iterum, Imperator Caesar Divifilius Iterum, Triumviri rei publicae constituendae causa. Voilà leur titre exact, n'est-ce pas? Tous les trois ont été, pour la deuxième fois, pour un deuxième quinquennat, triumvir pour restaurer la République. Et tout cela figure avant les consuls qui entrent en fonction le 1er janvier, ce qui montre que c'est pour toute l'année et dès le 1er janvier que les triumvirs en 37 sont en fonction. Ces précisions montrent qu'Auguste décrit les faits de manière très générale, sans entrer dans les détails. En 13 ou 14 après Jésus-Christ, il peut parfaitement considérer que le triumvirat a été continu pendant 10 ans. Il l'a effectivement exercé légalement pendant 10 ans. Il aurait même pu écrire qu'il l'avait détenu pendant plus de 10 années continues, puisqu'il a oublié 1 ou 2 mois. Mais après le 31 décembre 33, ceux d'entre vous qui connaissent les interprétations données des pouvoirs d'Octavien et d'Antoine à cette époque n'ignorent pas que certains collègues ont parlé d'un véritable coup d'État pour parer à la fin de la charge triumvirale. D'autres, comme par exemple les Allemands Heinrich Dessau dans son histoire de l'Empire romain, ou alors dans un article qu'il a publié en 1925, ou Ulrich Wilken, n'est-ce pas, dans un article célèbre sur le prétendu coup d'État d'Octavien en 32 avant Jésus-Christ, ont pensé que le triumvirat avait continué de façon ininterrompue jusqu'en décembre 32, en supposant qu'il n'avait débuté que le 1er janvier 36. Ce qui est faux, vous l'avez vu, puisqu'en 31, il est déjà mentionné dans les textes. Mais on pourrait toujours penser que là, il y a une période de vide juridique qu'Auguste, dans ce passage, voile discrètement. Cette hypothèse, n'est-ce pas, serait très importante pour apprécier l'honnêteté du texte des Res Gestae, et d'ailleurs aussi celle des fastes consulaires gravés sous le principat d'Auguste. Si, contrairement aux deux inexactitudes que je viens de relever, et qui sont dues au caractère superficiel de l'argument, l'affirmation lapidaire d'Auguste, loin d'être un résumé destiné à rappeler qu'il a exercé une fonction extraordinaire, mais avec trois candidats, et pendant 10 ans seulement, mentait sur la prolongation de cette charge pour casser un coup de force, un coup d'État, les choses, évidemment, seraient très différentes. Elle donnerait des arguments à ceux qui pensent qu'il existait une lacune d'un an dans la légalité des pouvoirs du triumvir octavien. La charge, en réalité, s'est terminée en décembre 31, le 31 décembre 33, pardon, et donc entre le 1er janvier 32 et le 1er janvier 31, quand il gère le consulat, où il a de nouveau un pouvoir légal, il y a donc apparemment un petit problème. Et là, nous pourrions le prendre la main dans le sac, si vous me permettez cette expression populaire. Indépendamment de la fin du deuxième triumvirat, l'affirmation d'Auguste pose donc la question de son honnêteté, car il existait une période de 9 ou 10 mois en 37 pendant laquelle les triumvirs n'étaient plus en fonction, à cette époque également. Même si une loi a légalisé toute cette période rétroactivement, on peut s'étonner qu'Auguste se vante d'une charge qui comporterait autant de zones d'ombre dans un passage où il veut précisément souligner son légalisme. En fait, l'historien allemand Klaus Girardet a pu expliquer dans 2 articles, l'un de 1990 dans le Rheinisches Museum et l'autre dans Chiron en 1985-15, il a pu expliquer donc les silences d'Auguste sur les périodes d'illégalité apparente des deux triumvirats, un silence qui existe également dans les autres sources. Girardet a notamment pu montrer qu'il s'agissait d'un faux problème. Les triumvirs possédaient un imperium consulaire qui comportait des compétences civiles et militaires. La charge elle-même était à chaque fois limitée à une période quinquennale. Une fois donc le 31 décembre 38 ou le 31 décembre 33 passé, Antoine, Lépide et Octavien n'étaient plus triumvirs. Mais comme ils avaient reçu une provincia, c'est-à-dire une tâche militaire à accomplir, et qu'ils possédaient pour cela l'imperium consulaire militiae, permettant de commander aux armées à l'extérieur de Rome, il continuait tout à fait légalement à posséder celui-ci, tant que leur successeur n'avait pas été nommé et n'était pas arrivé sur place pour les relayer, et tant qu'ils ne franchissaient pas eux-mêmes le pomerium. Car lorsqu'un détenteur de l'imperium aux armées passait cette limite juridique de la ville de Rome, son imperium expirait définitivement. C'est pour cette raison que les triomphateurs ou les détenteurs de pouvoirs spéciaux évitaient soigneusement d'entrer dans Rome tant que leur triomphe n'était pas célébré et tant qu'ils désiraient conserver leur pouvoir militaire. Pour ce qui concerne l'année 33, Girardet réussit ainsi à démontrer qu'aucune source ne prouve de façon irrécusable qu'Octavien a franchi le pomerium. Par exemple, le 1er janvier 32, quand les nouveaux consuls, amis d'Antoine, l'attaquèrent au Sénat, il n'était pas à Rome. Il y revint plus tard, comme l'écrit Dion Cassius, et convoqua le Sénat. Mais rien n'indique que cette réunion se fit à l'intérieur du pomerium. On sait que la curie elle-même, qui avait brûlé en 44, était toujours en restauration à l'époque et n'était pas encore utilisable. Il n'est même pas certain qu'il a lui-même convoqué le Sénat. Il a pu le faire par l'entremise d'un tribun de la plèbe, par exemple. Toutes les autres actions accomplies par Octavien en 32 se sont ainsi déroulées ou ont pu se dérouler extra pomerium. Il n'y a pas la moindre attestation de sa présence à l'intérieur de Rome. Donc, il a continué en tant que ex-triumvir, mais toujours investi d'une provincia et d'un pouvoir militaire pour réaliser ce qu'on lui a demandé de faire, il a continué à posséder légalement son droit de commandement militaire et avait seulement perdu les compétences civiles attachées à la charge triumvirale. Si nous suivons cette interprétation, nous comprenons que ni les res gestae ni les fastes consulaires ne trichent. Auguste ne dissimule aucun coup de force, aucune prolongation illégale de son pouvoir triumviral. Ce qu'il dit correspond simplement à la réalité. Il a possédé cette charge pendant 10 ans avec des collègues, et en 33, au lieu de se faire attribuer une nouvelle charge triumvirale par une loi, ce qu'il aurait pu faire sous la pression de l'énorme armée qui l'entourait devant Rome, il quitta la fonction, comme ses deux collègues. C'est ce qu'il affirme dans notre passage des res gestae. Je ne veux nullement dire que l'attribution de la charge triumvirale en 43 ne résultait pas d'un coup de force et aurait eu lieu si le Sénat avait eu des forces armées équivalentes à sa disposition. Il est possible aussi qu'en 32, un Sénat entièrement libre qui ne se serait pas senti menacé par l'armée massée aux portes de Rome n'aurait pas attribué la provincia d'Octavien à un autre, à un Antonien par exemple, ou à un ennemi des triumvirs s'il en restait, pour mettre un terme au pouvoir d'Octavien. Je veux uniquement souligner que dans le chapitre 7 des res gestae, Auguste ne trompe pas son lecteur en affirmant qu'il a été triumvir pendant 10 années continues. Le prétendu vide juridique et le coup d'État larvé sont des mythes de l'historiographie moderne. Un autre exemple du sens contextuel des affirmations d'Auguste est celui de la puissance tribunicienne. Dans les chapitres que nous avons déjà commentés, celle-ci n'est mentionnée qu'en passant. Une fois, lorsqu'Auguste donne le nombre de puissances tribuniciennes pour mettre en évidence la quantité énorme d'honneurs qu'il a reçus, une autre fois comme pouvoir partagé avec un collègue et opposé à des charges non conformes à la tradition, c'est-à-dire nouvelles, perpétuelles et revêtues par un seul individu. C'est ainsi que j'ai interprété ces passages, en suivant les travaux les plus récents. Mais une autre interprétation a été faite par certains de mes prédécesseurs. Ils soulignent que la puissance tribunicienne était indéniablement le principal pouvoir civil détenu par Auguste, à l'époque à laquelle il n'était plus triumvir et n'occupait plus le consulat. Existe-t-il donc à nouveau une contradiction entre ces protestations solennelles et la réalité ? Auguste a-t-il passé sous silence l'un de ses pouvoirs les plus efficaces dans la politique civile? À une époque, il était seul détenteur de ce pouvoir. Tout dépend à nouveau de l'interprétation que l'on donne des sources. Au chapitre 10 des res gestae, Auguste évoque l'attribution de la sacro-sainteté et de la puissance tribunicienne. Le libellé du texte a fait l'objet de discussions, comme nous l'avons déjà vu au début de ce cours, à propos des comptages de mots weberiens. Le texte est mieux établi depuis la découverte des fragments d'Antioche. Je rappelle qu'on lit maintenant au chapitre 10, « Sacrosanctus in perpetuum ut esem, et quat viberem tribuni qui apotestas mihi esset per legem statutum est. » En grec, Καϊνα hieros ο διαβιούτε τεν δεμαρχικέν εχω εξουσίαν νόμο εκυρώτε. C'est-à-dire, on sanctionnait par une loi que je serai à jamais sacro-saint, virgule, et que, tant que je vivrai, je détiendrai la puissance tribunicienne. Je ne reviens plus à l'établissement du texte dont il a été assez longuement question. Si nous lisons le texte superficiellement, nous avons l'impression qu'Auguste rappelle qu'une loi lui a conféré la sacro-sainteté et la puissance tribunicienne, comme s'il s'agissait d'une seule et même loi. Or, c'est un peu plus compliqué, et l'interprétation du passage dépend de l'utilisation que l'on fait des sources historiques. Mommsen avait supposé qu'Octavien avait reçu en 36 la pleine puissance tribunicienne, qui aurait été élargie du point de vue spatial en 30, désormais elle s'appliquerait partout, et transformée en 23 en une composante annuellement renouvelée du pouvoir impérial, ce qui était assez vague. Ce faisant, Mommsen suivait les témoignages d'Appien et d'Orose, qui l'un disent pour l'année 36-35, Appien, donc après l'avoir fait son acclamé, il l'élire démarchion, S.A.A., tribun de la plèbe, pour toujours. Orose, quant à lui, dit qu'une fois qu'il était entré à Rome en célébrant l'ovation, il fut décrété par le Sénat qu'il ait pour toujours la puissance tribunicienne. C'est donc Mommsen qui, le premier, suivait cette version donnée par Appien et Orose. Son opinion, qui fut également celle d'autres historiens, par exemple des gens aussi différents que Victor Garthausen dans sa grande biographie d'Auguste, Anton von Premastein, le monument d'Antioche, nous le connaissons bien, Heinrich Sieber dans un livre sur la dictature de César, un article sur César en 1935, Ernst Hohl en 1939, et encore Kornemann, etc. Tous avaient avaient suivi l'opinion de Mommsen. Hein, donc, dès 36, il reçoit la puissance tribunicienne. Ils avaient deux auteurs pour l'affirmer. Cette opinion, cependant, fut contestée presque immédiatement ou un peu plus tard par la recherche moderne, notamment par l'anglais Hugh Last, dans un article de 1951, Ferdinand de Vischer, dans un article qui est déjà d'avant-guerre, Paul Strack également avant-guerre, qui tous renouaient avec la position d'un jeune homme, Johannes Krohmeyer, qui en 1888 avait fait sa thèse sur les fondements juridiques du Principat d'Auguste et qui avait déjà contesté cette interprétation. On préfère depuis suivre avec ces personnes, les derniers que j'ai nommés, le témoignage de Dion Cassius contre celui d'Orose et d'Appien et interpréter les privilèges de 36 comme la simple attribution de la sacro-sainteté tribunicienne et du droit de s'asseoir sur le banc des tribuns. Dion écrit en effet qu'ils votèrent, donc le peuple et le Sénat votèrent, que celui qui l'offensait, Octavien, par l'acte ou la parole, serait passible des mêmes peines que celles qui avaient été établies pour les tribuns de la plèbe. Donc il devait être sacro-saint. Et en conséquence, il reçut le privilège de pouvoir s'asseoir sur les mêmes bancs que les tribuns. Et ce n'est qu'en 23 qu'il aurait reçu la puissance tribunicienne. Cette position est entre autres celle de toute une série d'historiens actuels, non seulement Hugh Last que j'ai cité tout à l'heure, après la guerre, elle a été déjà préfigurée avant la guerre, mais celle de Vickert dans la Réal Encyclopédie, de Pierre Grenade dans sa thèse de 1961 sur les origines du Principat, ou plus près de nous, de Castritius dans un livre sur le Principat comme République qui date de 1982, Jochen Bleiken dans un volume de 90 et Jean-Louis Ferrari dans un article des Cahiers Glotz en 2001. Donc c'est devenu actuellement la Vulgate. Les arguments en faveur du témoignage de Dion Cassius sont en effet multiples. Parmi les plus importants, il faut citer le fait que le compute des puissances tribuniciennes débute seulement en 23, et d'après Auguste lui-même, dans le passage que nous avons lu, ce qui rend peu plausible, étant donné l'importance de ce pouvoir dans la politique d'Auguste, que la décision de 36 est attribuée à Octavien la puissance tribunicienne pleine, comme on l'entend plus tard. D'un abandon de cette puissance, par exemple en 30, comme certains l'ont supposé, il n'est nulle part question dans les sources. D'autre part, on peut difficilement discriminer le témoignage de Dion Cassius par rapport à ceux d'Appien et d'Orose en invoquant l'origine livienne de leur version des événements, car on a pu montrer que Dion Cassius dépendait lui aussi de la tradition livienne. La différence entre les deux témoignages est peut-être due, d'après Last, au fait que Dion Cassius avait directement lu le texte de Tite-Live, alors qu'Appien et Orose n'avaient sans doute consulté que les abréviateurs. Jochen Bleichen pense que l'attribution de la sacro-sainteté faisait partie, avec le prodige du Palatin et le don d'un terrain à Apollon par Octavien, d'un plan qui devait faire apparaître Octavien comme le protégé du dieu. Vous vous rappelez peut-être qu'en 36 avant Jésus-Christ, la foudre était tombée au Palatin sur un terrain qu'Octavien y avait acquis pour se faire construire une maison. Sur l'avis des aruspices, il avait consacré ce terrain à Apollon, puisque c'était en quelque sorte un signe, un prodige. L'attribution de la sacro-sainteté prolongerait, d'après Bleichen, ces événements pour souligner la relation privilégiée d'Auguste avec Apollon. Comme à cette date, les tribuns de la plèbe étaient les seuls qui possédaient, d'après Bleichen, une aura sacrée, ein sacrale nimbus, dit-il, une auréole sacrée, on aurait recouru à cette voie pour exprimer la proximité entre Octavien et Apollon. Même si Dion Cassius raconte les deux événements à la suite l'un de l'autre, il n'y a manifestement aucun lien entre eux. Sinon qu'il est question de deux décisions concernant Octavien qui ont été prises après son ovation pour la victoire de Sicile. Parmi d'autres mesures, le peuple offrit d'une part à Octavien une maison aux frais de l'État, pour remplacer l'emplacement qu'il avait acheté et qu'il avait cédé à Apollon. De l'autre, on lui accorda la sacro-sainteté et le ius subsellii, le droit de s'asseoir sur les bancs des tribuns. Il s'agit en fait du même type de privilège que celui qui avait été accordé à César en 48 et 44. Pas davantage que les tribuns de la plèbe n'étaient sacrés, Octavien n'était élevé vers la divinité. Mais il était ainsi protégé contre d'éventuels attentats. Et de surcroît, cette qualité et le droit d'utiliser le banc des tribuns le signalaient comme défenseur de la plèbe. Aucun pouvoir n'était attaché à ces privilèges, que d'ailleurs sa sœur et sa femme reçurent en 35. Elles aussi, ce n'étaient pas des tribuns de la plèbe. Elles n'avaient pas la puissance tribunicienne. Aucun pouvoir n'était attaché à ces privilèges. Ils interdisaient seulement de porter, que l'on portât la main à celui qui, à l'instar des tribuns de la plèbe, était désormais déclaré sacro-saint. Les textes ne sont pas clairs sur la nature de la décision, et le témoignage d'Orose qui parle d'un senatus consulte est certainement erroné ou incomplet, à en juger d'après la formule d'Auguste qui associe les deux mesures, celle concernant la sacro-sainteté et l'attribution de la puissance tribunicienne. Eh bien, le privilège de 36 lui fut accordé par une loi. La deuxième mesure évoquée par Auguste, l'attribution de la puissance tribunicienne, proprement dite, est très importante. Il ne fait aujourd'hui guère de doute qu'Auguste l'a reçue en 23 avant Jésus-Christ, sans doute le 1er juillet, pour compenser les pouvoirs civils du consulat qu'il avait déposé quelques jours auparavant, et cette fois-ci définitivement. Refusait désormais qu'on l'élise automatiquement consul en été, quand il y avait les élections consulaires. En démissionnant du consulat, Auguste n'aurait plus été capable de collaborer étroitement avec le Sénat. Ça, c'est vrai. Et il ne pouvait pas, pour ce faire, recourir toujours au bon vouloir d'un autre magistrat. Il était désormais décidé à gouverner autrement, sans brimer les sénateurs, en utilisant les magistrats à ses fins, ou par l'occupation systématique du consulat ordinaire. En même temps, Il veillait à ne pas paraître occuper une magistrature à titre perpétuel, comme il l'affirme au chapitre 5. Or, notre passage ne dit-il pas le contraire? La loi lui accorda, d'après ses propres termes, la puissance tribunicienne, quoad viverem, tant que je vivrai, autrement dit, à titre perpétuel, comme l'écrivent Suétone et Dion Cassius. Suétone écrit qu'il reçut la puissance tribunicienne perpétuelle, dans laquelle il coopta par deux fois, chaque fois pour une période quinquennale, un collègue. Et Dion Cassius rappelle simplement qu'il fut fait tribun de la plèbe, ce qui est étonnant, à titre viager. Mais le fait que Dion Cassius dise ici qu'il est fait démarchon, c'est-à-dire tribun de la plèbe, c'est simplement une formule superficielle, car quelques lignes plus bas, où Dion Cassius continue de parler, il évoque déjà la puissance tribunicienne. On voit très bien que c'est de cela qu'il s'agit. C'est simplement une formule imprécise. En fait, cette formule « quat viverem » veut sans doute dire que le pouvoir était annuel, ce qu'atteste la numérotation des puissances, et que le renouvellement annuel ne requérait sans doute plus une loi spécifique à chaque année. Elle est votée une fois pour toutes et l'autorise à renouveler chaque année la puissance tribunicienne. Le renouvellement se faisait sans vote formel. Il ne fait aucun doute que la puissance tribunicienne méritait le nom que lui a donné Tacite dans les Annales, au livre 3, 56, « Summi fastigi vocabulum », c'est-à-dire titre attaché au rang suprême. Elle permettait, comme je l'ai dit, de gouverner civilement, de consulter le Sénat et le peuple, et conférait à Auguste les pouvoirs civils qu'il ne détenait plus depuis le dépôt du consulat, quelque part en juin 23. Nous sommes bien en présence d'un des fondements du pouvoir impérial. Mais comme Helmut Castritius, dans sa thèse sur le Principat romain en tant que république de 1982, l'a prouvé à mes yeux, ce pouvoir d'exception, dont l'attribution correspond pour certains au début du Principat, n'était pas aussi nouveau et monarchique qu'on le dit souvent. Il est compatible avec une restauration du régime républicain traditionnel. La séparation du pouvoir, puissance tribunicienne, et de la fonction, le tribunat de la plèbe électif, n'est-ce pas, était traditionnelle à Rome, car d'après Castritius, on la trouve déjà derrière la loi curiate des impériaux, qui confère l'imperium à quelqu'un après son élection à une fonction donnée. On la trouverait aussi derrière la prorogation des imperia, et dans les imperiums accordés à des particuliers. Ce n'était donc pas une procédure inouïe, au contraire, elle pouvait s'inscrire dans la tradition, dit Castritius. D'autre part, ce pouvoir n'était pas viager. En fait, comme Theodor Mommsen l'avait déjà souligné, la puissance tribunicienne était annuelle. La loi de 23 aurait accordé à Auguste une fois pour toutes le droit de renouveler sa puissance tribunicienne chaque année, sans avoir à se présenter devant le peuple. Par Dion Cassius, nous savons d'ailleurs que le système n'était pas encore parfait, car en fait, les tribuns de la plèbe ne convoquaient que très rarement le Sénat. Donc de ce point de vue, ce n'était pas vraiment une tradition. Et dès 22, le peuple accorda à Auguste le pouvoir, par une loi, de réunir le Sénat quand il le voudrait, 54-3-3, et peut-être même quand il serait absent de Rome. En tout cas, malgré ces quelques incertitudes dues à l'absence de sources plus précises, il s'agissait de conférer à Auguste des pouvoirs civils qui ne heurtent ni le Sénat, ni la volonté de gouverner selon les traditions républicaines. Ainsi que Castritius l'a souligné, la puissance tribunicienne ne représenterait pas un pouvoir monarchique contraire à la tradition. Les arguments de Castritius reposent certes sur une interprétation serrée des sources, car aucun auteur antique ne présente explicitement les faits de cette manière. Il est vrai que ce pouvoir et ce privilège furent accordés à Auguste par un senatus consulte et une loi, mais il faut reconnaître que malgré les précédents et le caractère annuel de la puissance tribunicienne, il s'agissait bien de nouveautés. L'attribution de l'imperium par la loi curiate était en fait toujours liée à une élection et ne concernait généralement pas des particuliers ou des personnes qui n'avaient pas été élus auparavant à cette fonction. Ce cas ne se présentait que dans des situations exceptionnelles, où un jeune homme, à titre privé, a levé une armée et après coup, on légalise son pouvoir. Mais justement, Auguste veut ici dire qu'il ne voulait aucune situation et privilège exceptionnel et illégal ou qui ne soit pas ancestral. On pourrait certes considérer que, puisque César avait déjà revêtu ses pouvoirs, il faisait désormais partie de la tradition ancestrale. César aussi avait reçu la puissance tribunicienne, ou des privilèges allant dans ce sens. D'autre part, le privilège de renouveler automatiquement sa puissance sans nouveau vote demeurait une nouveauté, conforme à une loi, certes, mais une nouveauté quand même. C'est cette nouveauté et de toute façon l'importance permanente de la volonté du prince qui est critiquée par les historiens postérieurs comme Tacite ou Dion Cassius. L'objet de leur critique ne fait aucun doute. Cependant, on doit se demander ce qui avait en fait changé depuis l'époque républicaine. Le seul changement que je perçois est le fait qu'un seul homme, ou plutôt un seul groupe hégémonique, décide désormais de tout. Quelques décennies plus tôt, c'était plusieurs groupes qui déterminaient la politique en se servant des mêmes traditions et subterfuges. Il est vrai aussi que le gouvernement de l'Empire romain était devenu à tel point complexe que les règles de gouvernement de l'époque idéale de la République étaient inapplicables dans la réalité, déjà sous Pompée et César. Et c'est en fait ce régime que le régime augustéen continue, avec ses formes à elle. La phrase par laquelle Auguste présente la puissance tribunicienne, phrase à laquelle il faut encore lier son insistance dans le chapitre 6, sur le fait qu'il avait toujours eu un collègue dans cette fonction, révèle l'importance qu'il accordait à cette construction institutionnelle. Je répète donc, on décidait par une loi que tant que je vivrai, je revêtrai la puissance tribunicienne. Et plus tard, que tout ce que le Sénat a voulu que j'effectue, je l'ai fait. Je l'ai accompli grâce à la puissance tribunicienne dont j'ai toujours demandé au Sénat, pour laquelle j'ai toujours demandé au Sénat et reçu un collègue, etc. On ne peut manquer de remarquer qu'il accordait à cette construction, qu'il aurait parfaitement, pu faire autre chose pour exercer un pouvoir quasi monarchique. Mais son long tâtonnement et une démarche qui s'appuyait toujours sur des lois et même un certain nombre de précédents démontrent qu'il refusait strictement tout pouvoir de type monarchique. Son pouvoir était le résultat de toute une série de pouvoirs et ceux-ci évoluèrent avec le temps. Après l'époque triumvirale, il inaugura son principat en gérant régulièrement le consulat. En 27, il mit un terme à la pratique de nommer les consuls, en avance, qui avait été caractéristique de la période triumvirale. Et depuis 26, et ensuite, les élections se faisaient à nouveau au consulat, selon la manière traditionnelle. Mais l'élection perpétuelle au consulat ne satisfaisait pas Auguste, puisqu'elle avait des relents monarchiques, dans la mesure où elle empêchait les autres sénateurs à gérer le consulat ordinaire et à les qualifier aussi pour des fonctions très importantes. Dès qu'il se sentit assez fort, il inaugura le nouveau système qui lui permettrait d'œuvrer à l'arrière-plan comme un recours, en fait, comme un organe de contrôle et d'initiative plutôt que comme la source de toute décision. Et toujours ses pouvoirs visaient à lui permettre de collaborer avec le Sénat de façon efficace et sans trop risquer de perdre sa prééminence. Autrement dit, il se référait toujours à la tradition républicaine restaurée. On dirait qu'il entendait effectivement combiner son propre pouvoir avec la renaissance des institutions de la République telles qu'elles avaient existé du temps de César ou de Pompée. Il pouvait faire, comme je l'ai dit, autrement. Il pouvait parfaitement suivre le peuple et le Sénat qui, à tel moment, lui imposait une autre magistrature perpétuelle, consulat perpétuel. Au-dessus, on a même parlé de 3 consuls, etc. La dictature, etc. Il l'a toujours écarté absolument. Pourquoi ? Il a le plein pouvoir, il a les armées sur lui, il y a une sorte de consensus de ne plus revenir aux guerres civiles et d'accepter le compromis que propose Auguste. Non, malgré tout, il a toujours continué à chercher dans la voie légale et finalement il a trouvé cette situation d'attente qui était la puissance tribunicienne avec les autres pouvoirs et son prestige personnel qui lui permettait d'être toujours un recours tout en laissant la vie institutionnelle, à la limite, se dérouler si elle ne lui était pas hostile, bien sûr, et s'il n'y avait pas de désordre.
C'était l'éloge du savoir avec John Shade, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Présentation Christine Goémé, réalisation Malika Mizgash.
France Culture.
Qu'est-ce que c'est ? Un disque. Combien coûte ce disque ?
Chaque être humain est un émetteur-récepteur qui s'ignore.
Mémoire vive.
Plaisir.
Les parfums
renouvelables.
Mémoire vive.
Vous écoutez France Culture.
Dans Oui, j'aimais, mais art contemporain. Je trouve que la performance d'acteur est un petit peu...
De la culture.
J'ai vu les images à la radio.
France Culture vous présente...
Time to cast the waste stones. Time to gather stones together.
Time to love.
Terre promise, un film de Amos Gitai, sélection officielle, Festival de Venise 2004. Une nuit dans le désert du Sinaï, un groupe de jeunes femmes venues d'Europe de l'Est passent en secret la frontière. Le lendemain, elles seront vendues aux enchères. Le destin de Diana semble être tracé jusqu'au jour où elle rencontre Rose, une jeune femme au visage angélique. Terre promise avec Anne Parillou, Anna Chigula, Rosamund Pike, Diana Bespechny, en salle le 12 janvier, à retrouver dans les émissions de France Culture.
Écoutez, vous êtes sur France Culture.
France.
Chers auditeurs.
Culture.
Chers auditeurs.
Je suis en écoute de France Culture.
Quand je veille, je mets la radio et parfois j'écoute les gens parler.
La radio n'est que mouvement. Sa seule voix, la voix.
Vous êtes sur France Culture.